Interview.
2 jours.
Hugo, bonjour.
Bonsoir.
Hugo, tu es ici dans ce long week-end de Barnave aux artistes et tu es ici pour travailler sur un travail sur fresque, on peut dire, ou sur un grand support du moins. Tu es graffeur avant tout, c'est ça?
Alors oui, je suis créateur plasticien, mais c'est vrai que je suis issu de l'école du graffiti. Aujourd'hui, je qualifierais mon travail de post-graffiti, d'expressionnisme et dans une démarche tout à fait spontanée. Donc là, en effet, c'est un support amovible qui fait 14 mètres carrés, qui est composé de 14 pièces, 14 fragments justement d'un mètre carré chacun, d'un mètre par un mètre. Et ces dernières donc sont réalisées tout au long du week-end de Barnave aux artistes. Donc de ce matin, samedi 10, jusque demain soir. Et après, l'œuvre en question sera comme un fil rouge, sera éclatée et divisée en plusieurs fragments, donc c'est 14 fragments, pour être offert aux Barnavois et aux Barnavoises, je ne sais pas comment on dit, si c'est comme ça, et aux personnes que ça enchante. Et ça sera au chapeau pour ceux qui veulent contribuer au parcours artistique que j'ai entamé il y a maintenant une vingtaine d'années. Voilà.
Stesso Primo, donc c'est ton nom d'artiste. Tu l'as depuis justement une vingtaine d'années, ce pseudonyme?
Exactement, ouais. Ça me rappelle les heures de colle en 5e. C'est là que j'ai trouvé ce blaze. C'était Stess One. Il y a une dizaine d'années, j'ai été m'installer en Italie après un échange européen à Turin, exactement. Et du coup, j'ai transformé le blaze en Stesso. Et Stesso, exactement, qui veut dire étiré, étendu, voire avachi. Et ça me convient bien, puisque j'aime bien essemer mon travail à droite et à gauche. Et voilà.
Très vite, tu t'es dirigé sur cette expression du graffiti.
Alors oui, j'aime peindre avec tout médium. Ça peut être des marqueurs, des pinceaux, des couteaux. Mais c'est vrai que l'aérosol m'a démangé très vite. Parce que petit, j'ai rencontré des graffeurs qui étaient en travaux d'intérêt généraux au travail de ma mère. Et du coup, c'est là que j'ai chopé le virus. Voilà, voir des grands qui avaient pris justement des peines plus ou moins lourdes pour cet art subversif. Et si on regarde dans l'évolution, à l'époque on peignait sur les cavernes. Aujourd'hui oui, il y a le street art, mais il y a eu le graffiti depuis les années 80. Et ça me fait plaisir de pouvoir intervenir dans un village comme Barnave et justement apporter un petit peu une touche de décalée urbaine qui contraste avec la ruralité de ce village. Voilà.
Le graffiti, effectivement, on ne peut pas le dissocier de l'urbain. Qu'est-ce qui fait que ça puisse être plus facile dans des cités?
Alors du coup, oui, c'est un art urbain, mais je pense que vous êtes bien fourni dans le Diwa en graffiti artiste. Et du coup, moi, ce qui m'a plu dans cet art, c'est l'universalité. C'est vrai qu'on en trouve plus dans les milieux urbains, dans les périphéries urbaines, mais vous en trouverez partout. Ça veut dire que même dans des coins hyper reculés, le mec, il a trouvé un spot, ça lui a plu, il s'installe, il pose sa pièce ou elle pose sa pièce, et voilà. Et j'aime bien aussi, moi, trouver des spots complètement vierge de tout graffiti et les ouvrir comme ça et en laisser qu'un et continuer mon chemin. Donc c'est vrai que c'est un art qui est issu des métros, qui est issu des milieux très 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 très, très urbains, voire des contre-cultures à l'époque, de toutes les banlieues qui voulaient pouvoir être vues en centre-ville, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un art qui est complètement universel. Ça veut dire que tu voyages en Libye, que tu puisses voyager en Asie ou en Amérique du Sud, tu trouveras forcément des aficionados ou des confrères, des collègues qui peignent aussi. Voilà. Pour partager ça.
Qu'est-ce qui détermine pour toi l'importance d'un spot?
L'importance d'un spot, tout dépend des facteurs en fait. Si tu veux être visible dans le Vandale, ça va être l'emplacement du spot pour qu'il y ait un max de vues tous les jours. Mais si tu veux te faire une belle pièce au calme, bah, à toi de trouver un spot dans un tunnel pépère ou dans la forêt complètement abandonnée. Et là, tu tapes ta pièce. Et... Voilà. Donc, tout dépend de ce que tu as envie de peindre pour déterminer l'importance d'un spot. Voilà.
Il y a une étape avant de t'atteler sur le graphe. Est-ce que tu as pratiqué le dessin classique aussi, de manière à acquérir aussi une écriture en quelque sorte?
Alors évidemment, il y a le sketching, l'esquisse avant. Tu trouves ton blaze, tu travailles tes lettres. Mais c'est vrai que j'ai souvent aussi, après avoir sketché quelques années, aimé aller peindre spontanément, sans aucun sketch, avec une palette de couleurs assez variée. Et laisser parler l'instant, laisser parler le geste, laisser passer l'énergie qui est là. Et du coup, bien évidemment, oui, j'étais très attiré par les arts plastiques, je pratiquais et je baignais dans un univers culturel très dense. Et à 10 ans, ouais, j'ai chopé le virus et à 13 ans, je ramenais mes premières bombes de chez Mezzo, de la scène du graffiti avignonnaise, voilà.
Tu peignais les murs de ta chambre ?
C'est encore le cas.
Et... On peut remarquer aussi sur de nombreuses fresques ou de peintures graffiti, elles sont souvent recouvertes les unes après les autres. Qu'est-ce qui... Il n'y a pas de règles précises dans cet art.
Il y a des codes, donc il n'y a pas de règles, mais il y a des codes. Évidemment qu'on se repasse si c'est sur des terrains, donc des friches ou des murs tolérés. À cet art, mais il y a le côté éphémère. Après, il y a des codes. Si je vais taper un vandale, tu me repasses, je vais venir te repasser. Et là, tu rentres dans une guerre entre égaux, et je reste loin de tout ça, tu vois, dans l'école du graffiti. Voilà.
Toi-même, tu pratiques au sein d'une grande ville ?
Du coup, grande ville, Turin, Naples, Zenta en Serbie, Budapest, un petit peu en France. Mais j'aime bien bouger. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir participer à des festivals street art, des festivals ici comme à Barnave. Et beaucoup le sud de l'Italie. Voilà.
Il y a de plus grandes avancées dans le domaine du graffiti en Italie qu'en France ?
Le mouvement est peut-être plus libre. Puis à ce goût de... C'est un petit peu la mère patrie des arts pour moi, l'Italie. Donc, il y a un mouvement bien actif. Et en France, justement, pour ne pas rentrer dans cette guerre d'ego, il faut passer les frontières et aller voir ailleurs ce qui se passe un petit peu et continuer de peindre, de faire rayonner, de transmettre. Et voilà.
Tu penses que la culture d'un pays et son histoire nourrissent aussi cet art du graffiti?
Certainement, mais on en revient à ça. On a toujours écrit sur les murs, que ce soit déjà pour des campagnes politiques. À l'époque, on écrivait sur les murs. Les peintures rupestres, j'en reviens à ça. Pourquoi écrire sur les murs? Pour laisser une trace, pour essayer de transmettre de la couleur et... Et du coup, les avancées qu'il y a là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, c'est un art qui est à peu près reconnu. Et ça fait plaisir de pouvoir partager tout ça, quoi. Voilà. Et de ne pas rester sous un pont. Il y a des gens qui aimeront rester sous un pont, dans l'anonymat ou sur un train et cartonner toute leur vie. Après, moi, j'ai plus choisi de partager tout ça.
Quand tu recherches un spot, quels sont les critères qui te permettent de le choisir? La taille, la disposition, le lieu, mais aussi
le hasard,
la matière qui sur laquelle il est constitué également?
Ouais, béton lisse, brique, hein, tout ça, ça reste le mieux, les roulants aussi. Mais... le hasard aussi, hein. Des fois tu prends ta voiture et tu patrouilles, que ce soit en France ou à l'étranger, et tu vas tomber sur le spot idéal, ou alors dans les centres-villes à pied, et tu te laisses surprendre, et je pense qu'il y a une question de feeling, voilà, avec l'endroit, et tu repères et après t'agis, voilà. C'est comme ça.
Je ne sais pas aujourd'hui, mais longtemps, les graffeurs étaient poursuivis. Hein, on les recherchait pour dégradation hein, de lieux publics ou le métro, notamment, par exemple. Est-ce que justement il y a une reconnaissance, tu disais que ça commence à être reconnu, et est-ce qu'il y a une tolérance, voire même une demande de structures qui font appel à vous, artistes graffeurs?
Oui, après tout dépend le chemin et le parcours artistique qu'on décide d'entreprendre. Ça veut dire que oui, aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir peindre avec des écoles. Actuellement j'ai des fresques participatives, c'est la seconde de l'année de cette fin d'année scolaire. Et du coup, c'est chouette de pouvoir transmettre. Après, il y a des gens, comme je le répète dans ta question précédente, qui resteront dans l'anonymat toute leur vie et qui voudront continuer de cartonner en vandale. Et je pense qu'il faut des deux, parce que le monde du graffiti, c'est large. Tu as des gens qui vont faire du tag toute leur vie, du chrome toute leur vie, du colors toute leur vie, du terrain, des persos. Et ben, je pense que voilà, tu as aussi des gens qui transmettent et il faut justement. Voilà. Après... on parle pas du monde des galeries, de tout ça, hein, mais voilà, on parle juste d'anonymat ou de visage découvert. Voilà.
Tout à l'heure, tu parlais de code. Est-ce qu'il y a, c'est peut-être un grand mot, mais ou un gros mot, est-ce qu'il existe une sorte d'académie du graphe?
L'académie, c'est ton crayon, c'est les grands que tu vois déjà peindre. Après, t'en arrives au bon, t'essayes, tu fais tes premières pièces, c'est pas forcément génial. Et après, t'évolues. Mais il y a quand même un gros côté autodidacte dans le graffiti. Voilà.
Comment se nourrit justement cet art, toi-même? Comment tu t'es nourri de ces formes, de ces tracés, est-ce que c'est de toi, ou alors est-ce que aussi tu t'es cultivé au niveau de l'expression plastique et de produire une synthèse peut-être de tes découvertes ou de tes recherches dans ce domaine?
Je pense que c'est ça, hein. On est comme une base de données. Quand tu pratiques, tu arrives à acquérir de nouveaux tracés, de nouvelles techniques, et tu continues de... Ben, je pense que pour se faire plaisir et perdurer, il faut continuer d'expérimenter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai fait un fond très, très, je sais pas, flou, on va dire, un petit peu chaotique. Et au fil du week-end, ben, l'œuvre, elle va s'étayer vers quelque chose de plus propre, de plus pensé, mais toujours avec ce côté spontané. Donc, voilà.
Et on peut appeler ça des états ? De cette évolution, de ce graphe, par exemple, celui que tu constitues aujourd'hui et demain, tu es parti donc d'un format plutôt rectangulaire, horizontal, composé donc de 14 pièces d'un mètre de côté. Et comment construis-tu, ou est-ce qu'il y a une composition dans ce tracé à venir? Est-ce que tu t'établis une base?
À venir ou déjà sur le mur, mais exactement, c'est comme un petit peu le solfège, tu as quelques notes. Et tes possibilités sont infinies comme en musique. Et donc là tu te lâches. C'est pour ça que je commence à droite, à gauche, au milieu, je reviens, je rajoute du petit, du moyen, du gros. Et je me fais plaisir comme ça. Il y a une phase expérimentale, mais en effet il y a toute une base, comme j'expliquais, déjà acquise. Mais cette base acquise, bah, t'essayes de la transformer, de la mélanger, de la chambouler un petit peu. Et oui, là, une peinture comme ça, c'est complètement expérimental. Et c'est composé comme une mélodie. Voilà.
Ça me fait penser au badigeon, hein, aussi sur fresque. J'en ai pratiqué pour de la restauration de monuments. Et effectivement, on peint un peu partout à la fois, de manière à créer une vibration.
Alors là, c'est clair, c'est clairement vibratoire. Là, on n'est pas sur de la restauration, on est sur de la créa et de l'instauration complètement. Mais oui, il y a du geste, il y a de l'énergie. J'aime bien essayer divers outils. Donc sur cette fresque, il y a de la peinture au couteau, il y a de la projection, il y a du squeezer, il y a de l'aérosol, de l'encre. Je ne mettrai pas de peinture à l'huile, c'est trop long à sécher. Et du coup, j'ai envie que ces 14 fragments, bon, ben, quand on les démonte peut-être demain en milieu d'après-midi, ben, ils racontent quelque chose d'intéressant et qui soit agréable et justement vibratoire quand la personne qui l'aura, voilà, elle appréciera tout ce travail et ce mélange, justement, cette cacophonie graphique. Voilà.
Est-ce que tu connais un peu le résultat que tu pressens?
Ouais, mais ça peut varier. Donc je peux être sur des idées de faire des lettres, mais là, sur, pour le coup, c'est sacrifier quelques morceaux de l'œuvre. Donc je sais pas encore. Voilà, je vais la faire évoluer et demain on verra bien.
Tu disais à l'instant donc que tu crées une sorte de chaos hein, sur ce support, de manière à t'appuyer pour affirmer son résultat. Est-ce qu'il y a une nécessité pour toi de travailler justement sur ce chaos?
Ouais, ça fait beaucoup de bien, quelque part, de le lâcher, c'est un grand exutoire, parce que quand tu fais des fresques, justement, pour transmettre l'art du muralisme, que ce soit avec des petits ou des grands, t'as forcément des codes, des tracés à respecter, des couleurs à respecter, des stocks à respecter, des échéances de dates à respecter. Donc là, évidemment, d'avoir des surfaces libres comme ça, où tu peux expérimenter déjà ce que tu connais et peut-être aller justement sur des sentiers que tu connais pas, c'est parfait et j'espère que le rendu sera agréable pour les autres. Voilà. Mais en tout cas, l'expérience aussi, il y a un côté de trance, il y a tout ça là-dedans. Et ça fait à peu près 9-10 heures de peinture en deux jours, voilà, sur 14 mètres. Donc oui, il y a des repasses, il y a des recouches, des surcouches. Mais voilà, moi, comme je suis un artiste peintre pérégrinateur et j'aime barbouiller, voilà, donc je continuerai.
Est-ce que parfois tu utilises le repentir?
Oui, bien sûr. Là-dedans, faut tout lâcher à travers l'art. On n'est pas là pour cacher quelque chose. C'est comme un morceau de free jazz. Il peut y avoir des fausses notes, mais on est là pour expérimenter. Et bien sûr, c'est aussi mon confessionnal, le mur ou l'œuvre. Voilà.
Et donc, au départ, il y a une préparation hein, de ce support avec des bandes adhésives qui sont des lignes parallèles, plutôt géométriques, avec des angles précis. Ont-ils une signification, ces tracés blancs-là, que tu maintiens encore pour le moment?
C'est que j'aime beaucoup l'art visuel qui appelle à la vue un petit peu, donc toutes les illusions d'optique et tout, je vais citer Vasarely pour le plus connu, mais j'aime bien toutes ces œuvres-là, et oui, c'est des influences que j'ai eues depuis tout petit, vraiment gamin, et dont j'ai le souvenir, je devais avoir 5-6 ans, devant les premières œuvres de Vasarely, et toutes ces lignes, peut-être qu'elles viennent de là, et il y a beaucoup d'œuvres sur toile, parce que je fais aussi pas mal de travaux sur toile, et que j'ai appelé Linea. Voilà, donc Line, justement, que ce soit Linea Nera, Linea Bianca. Mais j'ai fait, je travaille beaucoup autour de la ligne. Mais à côté de ça, il y a aussi tout ce bordel graphique. Voilà.
Et puis, ces tracés rouges hein, qui ont suivi, qui sont ensuite peut-être des repères aussi de composition.
Oui, c'était des repères dans l'espace, sur le support, pour me familiariser. Des fois, on me dit « Waouh, t'as pas l'angoisse de la feuille blanche ?» parce que j'ai déjà peint des murs dans le sud de l'Italie pour des communes, notamment à Furore, sur la côte amalfitaine. Si vous avez l'occasion d'y aller, c'est chouette. Eh ben non, t'as pas l'angoisse de la feuille blanche parce qu'il faut bien que tu commences. Et pourquoi je suis à gauche, pourquoi je suis au milieu, à droite et vice-versa. Je suis très, très mobile devant l'œuvre, que ce soit là ou devant une grande fresque. C'est pour commencer à remplir, à poser les bases. Donc en effet, ouais, ces lignes d'encre rose, ouais, ça m'a permis de voir la distance et l'espace que j'avais pour opérer voilà, pendant ces 48 heures.
Je ne sais pas si je connaîtrai la suite. Je pense que tu utilises en fonction des évolutions d'un support. Tu prends des photographies de ce travail ou alors tu le laisses à un aspect éphémère?
Il y a un aspect très éphémère, mais quand tu es en transe, c'est difficile de prendre de la photo, en fait. C'est si tu commences à peindre et que tu passes d'un outil à l'autre, d'une couleur à l'autre, d'une technique à l'autre, c'est difficile d'immortaliser tout ça. Ouais, il faut quelqu'un pour le faire. Oui, je le fais des fois au début, à la fin. Voilà, mais pendant, c'est marrant à voir aussi. Il y a un côté très performance là-dedans. Faut le rendu final, quelque part, c'est cool. Si ça peut faire plaisir à plein de personnes, et voilà. Mais il y a un côté plaisir pendant que je le fais, gestuel et trans, je le répète, trans artistique. Voilà, comme un musicien qui serait dans un solo et qui a du mal à s'arrêter. Il faut aussi savoir s'arrêter. Voilà.
Est-ce que tu adjoins le figuratif aussi dans ce mode d'expression ou alors tu restes dans une sorte d'abstraction de la communication d'aujourd'hui ?
Beaucoup plus dans l'abstraction. Voilà. Figuratif, il y a plein de gens qui font du beau figuratif. Très agréable à regarder. Et oui, j'ai fait un peu de dessin académique quand je suis passé dans une école d'art et tout. Mais très peu pour moi, l'idée de faire que du figuratif. Voilà.
Il y a des artistes, tout à l'heure, je te voyais avec une brosse envoyer des jets de couleurs. Ça m'a fait penser à Jackson Pollock. Ouais. Est-ce que tu t'es aussi imprégné de leur technique, à tous ces artistes qui ont révolutionné l'art contemporain, on peut dire aussi?
Énormément, mais sans trop les regarder non plus. En comprenant le personnage, en regardant l'œuvre, ok. Mais oui, dans les démarches, bien sûr. C'est des piliers, ouais. J'ai 33 ans aujourd'hui, ça fait 20 piges que j'expérimente encore la peinture. Et bien sûr, c'est des personnes qui ont marqué mon esprit et mon parcours artistique. Notamment Pollock, John Wan. Et là, il y a 50 ans d'écart, ouais, 40 ans d'écart. Mais travailler la saturation, la couleur et le geste, voilà, le pendant. Après, c'est cool, mais pendant, c'est bien aussi.
Est-ce que tu utilises... Est-ce que le graphe est unique et ton seul mode d'expression, ou alors tu travailles aussi plus classiquement ?
Je fais des œuvres diamétralement opposées. Hein. C'est vrai qu'avec tous les voyages et les passages que j'ai pu faire dans le sud de l'Italie, et là j'ai rencontré beaucoup de réfugiés avec qui j'ai échangé, et j'ai fait des grandes toiles sur le thème de la migration humaine. Et là c'est complètement différent, mais il y a quand même un travail de saturation, technique mixte en mélangeant l'encre, la peinture à l'huile, l'acrylique, le marqueur. Du coup, ouais, le graffiti, mais pas que, je répondrai. Voilà.
Et ces mélanges de produits ou de matériaux très différents, des fois, parfois, il y a dualité ou incompatibilité. Tu t'en joues de ça ?
Ouais, vraiment, ouais. S'il y a des vieilles toiles que je peux trouver à la brocante, des vieux paysages, et faire un gros tag dessus, je serais pas le premier à le faire, mais ouais, c'est marrant, bien sûr. Et la dualité, on le sait, un univers très sévère, les beaux-arts, les arts appliqués. On marquera pas l'histoire comme Michel-Ange, mais on prendra beaucoup de plaisir à le faire. Voilà.
Est-ce que tu t'es vu produire des graphes de très grande taille même en commande, par exemple?
En commande, oui. Pour le fun, pour le site Le Tripostal à Avignon, qui est l'ancien Tripostal et qui est devenu un tiers-lieu associatif. Du coup, j'ai fait un 9 par 5, 9 mètres par 5 mètres à l'échelle. En commande, oui, pour la ville de Furore, dans le sud de l'Italie, j'ai fait environ 80 mètres de long sur 3 de haut. C'était très chouette. Et ouais, j'aime bien les grands supports. Voilà, c'est même très dur de travailler sur du tout petit.
J'imagine. Ton corps travaille aussi. Hein. Il n'y a pas que les mains et le bras. C'est une expression, qui se rapporte le plus au vivant.
Ouais, complètement. Bien sûr, il y a une danse face au support, pardon. Quand tu crées comme ça. Forcément, il y a des gestes qui vont être répétés ou fluides. Et bien sûr, ouais, il y a une choré qui se crée. Et il y a beaucoup, beaucoup de mouvements. Ouais. Voilà.
Tu disais être avoir baigné dans la culture enfant. Tes parents sont dans le domaine de la culture déjà aussi?
Alors, j'ai une maman, qui est... était à la maison Jean Villard petit, du coup j'ai baigné dans le monde du théâtre et des arts graphiques. Mon père était au son plus à l'opéra et voilà, c'était chouette. Et bien sûr, oui, j'ai eu une grosse influence de ma famille et tout ce que j'ai pu voir de cette ouverture. Et aujourd'hui je chemine, voilà.
Est-ce que pour toi est-ce qu'il y a de l'importance à avoir une culture générale de l'art, des arts plastiques, pour être au mieux dans ce domaine de la graphique, du graphisme?
Ouais, tu peux avoir une connaissance, mais mais aussi une personne. Tu parles visuellement ou personnellement? Moi, je pense que oui, il faut une connaissance personnelle, des bases, mais il faut pas trop être. Faut pas se faire influencer non plus par ce que tu vois ou les courants. Donc, mais bien sûr, il faut une culture. Voilà.
Ça rejoint un peu les questions de tout à l'heure, hein, de se nourrir de toutes ces techniques.
Faut des bases, c'est tout, faut des bases. Après, faut pas non plus, je te dis pas d'apprendre l'histoire de l'art de A à Z, mais voilà, c'est comme en musique, faut connaître ses notes pour pouvoir composer quelque chose. Bon, ben là, pareil, t'as des bases et tu composes, voilà.
Est-ce qu'il y a des couleurs dominantes ou des couleurs que tu refuses, par exemple?
Aucune, parce que comme je l'ai écrit sur l'œuvre, là, all colors are beautiful, donc toutes les couleurs sont belles. Hein. Mais ouais, il y a un moment où je me suis refusé d'acheter du noir, ou d'utiliser le noir, pardon, parce que voilà, j'en utilisais beaucoup trop. Alors que j'adore Pierre Soulages, par exemple, le maître de l'outre noir en France. Et voilà, mais non, là je vais utiliser une palette de couleurs harmonieuse, mais j'aime toutes les couleurs, vraiment.
Les courants de peinture avaient leur gamme de couleurs, les impressionnistes avaient la leur.
Les fauvistes.
Donc toutes ces modes d'expression, est-ce que le graphe, lui, en a aussi?
Oui, il y a des périodes, mais il y a un gros classique dans le graffiti, c'est le chrome et le noir. Mais moi, justement, j'ai été de suite attiré plus par les couleurs. Quand j'étais gamin, j'achetais, oui, quelques bombes de chrome, mais j'achetais aussi beaucoup de rose, j'achetais beaucoup de vert pomme, de pistachio, beaucoup de violet, puisque j'étais influencé par des artistes qui utilisaient des peintures des couleurs acidulées. Et du coup, ouais, puis après, t'as des périodes. J'ai eu une période rose, complètement rose. Mes cartes de visite étaient roses, mon travail était rose. Là, je travaille beaucoup le bleu, et voilà.
Est-ce que la musique est un support ou une inspiration aussi pour ton travail?
C'est une complémentarité même. Hein. J'aime bien même créer sur de la musique. Et ça aide justement à se laisser bercer, emporter dans le travail. Mais oui, bien sûr, la musique, elle est essentielle. J'ai déjà peint sans musique, mais ça doit être très très rare les fois où j'ai peint sans musique.
Il y a cette nécessité de rythme. D'ailleurs, ce n'est que du rythme, le graphe, hein, en quelque sorte.
Bien sûr, c'est du rythme, mais quand tu vas faire une pièce, bon, ben voilà, de A à Z, tu as ton processus. Ok, je fais mes lignes, je fais mon remplissage, mes contours, mon outline, et je pars, et c'est joli, c'est bien. Si tu as révisé tes lettres avant, si tu as bien travaillé tes lettres. Mais là, c'est encore autre chose. Si tu peins sur 48 heures sur le même support de 14 mètres carrés, bah, tu vas pas partir d'une pièce de A pour arriver à Z. Tu vas être obligé de composer, de rythmer les couleurs. Et là, en effet, il y a vraiment un rythme qui s'impose. Et voilà, plus ou moins doux et plus ou moins énergique.
De tes graphes, est-ce que tu laisses paraître un message ou une émotion? Est-ce qu'elle est perceptible par tous ou alors elle est plutôt sélective, cette expression?
Elle est personnelle, mais elle est vouée à être universelle aussi. Ça veut dire que voilà, la peinture, il faut qu'elle puisse parler à celui qui la regarde et raisonner. Pour l'auteur, ok, mais pour le spectateur, et voilà, l'harmonie, je dirais, le rythme. Ouais.
Le texte a son importance également. Est-ce que il t'arrive de composer de très longs textes également dans ces graphes?
Non, mais des mots percutants, ça veut dire que je peux me lâcher plusieurs jours sur 9 par 5, une semaine sur un support de 9 par 5 au tripostal par exemple, et à la fin arriver et insérer un pochoir très très propre avec écrit Serendipity, donc heureux hasard. Et donc oui, le mot, les mots et l'écriture a une importance dans mon travail, bien sûr.
Ouais. Tu disais à l'instant,
Serendipity. Serendipity, ça veut dire heureux hasard, mais ça serait un heureux hasard scientifique. Mais moi, je détourne le mot, ça serait un heureux hasard pour tout dans la vie. La sérendipité en français. Et voilà. C'était le nom d'une de mes œuvres sur Avignon, au Tripostal, voilà. La 9 par 5.
Une question, est-ce qu'une œuvre est liée à un morceau de musique ou à un artiste ou un concept de son peut-être pour t'inspirer? Et est-ce que justement ces expressions sur graphe varient en fonction des musiques que tu écoutes?
Complètement, ça varie. Ce matin c'était plutôt de la tech house, après ça a été du dub, etc. Et je sens moi-même mon geste, mes couleurs, mon rythme changer. Et ça c'est plutôt chouette, parce que bien sûr il y a une vraie interaction, il y a un vrai partage avec la musique que j'écoute. Et c'est encore plus bonnard quand c'est un artiste musicien qui crée en live, que ce soit acoustique, électrique, et que je puisse créer par-dessus de A à Z de façon spontanée avec voilà, mes peintures, mes outils et composer. Bien sûr, il y a une différence suivant le rythme, suivant le BPM, suivant tout ça.
Est-ce que tu pourrais me citer un morceau que je mettrai à la fin de cet enregistrement?
Ah, ça va être dur, il y en a plein que j'aime. Un morceau de musique que tu pourrais mettre à la fin de cet enregistrement.
Je te laisse réfléchir un peu parce que je vais te reposer une autre question. Est-ce que ça t'est parfois, à titre expérimental, d'utiliser une musique que tu ne supportes pas pour créer?
C'est dur. Mais c'est dur. Oui, même sur mes playlists, des fois, dès qu'il y a une musique que j'aime pas, quand je crée, je la zappe. Voilà, donc ouais. C'est pour ça que je répète, il y a une vraie interaction avec la musique que j'écoute quand je crée.
L'important pour soi, c'est de prendre du plaisir.
Vraiment. Vraiment, vraiment. Se lâcher, expérimenter, prendre beaucoup de plaisir. Et pouvoir en donner aussi. Voilà.
Hugo, en tout cas, je te remercie de nous avoir donné un peu de ton temps pour nous parler donc de ton art en tant que Steso Primo.
Tu pourras mettre en morceau, pardon, Glue de Bicep. Donc Bicep, B-I-C-E-P, et Glue comme la glue. Et voilà, ça sera le morceau. Et justement, merci pour cet accueil dans le pays du Diwa. Et c'est une vraie découverte. Pourtant, j'ai traversé les Alpes plein de fois, mais vous avez de très belles vallées. Et merci de votre accueil.
Merci à toi. Bonne soirée.
Bonne soirée également. À bientôt.